Studio Tamani, voici nos informations en français.
À la une de l'actualité, affaire de l'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires, le procureur près de la Cour suprême déclare que le dossier n'est pas clos et les responsabilités seront bientôt situées. Les autorités mettent un accent sur le dialogue intra-religieux pour la stabilité et la paix au Mali. Une concertation des associations et confessions religieuses a débuté hier à Bamako dans ce sens. À Kolokani, dans la région de Koulikoro, la population fonde l'espoir sur les autorités de la transition, même si elle juge que le bilan est mitigé. Les réactions des habitants dans cette édition qui vous sera présentée par Sikou Gadjigo à la mise en onde de Nuhum Djiré. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Rebondissement dans l'affaire de l'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires. Le procureur général près la Cour suprême a déclaré ce mardi à la télévision nationale que des enquêtes sont en cours pour situer les responsabilités. Ainsi, Mamoudou Tembo dément les informations qui indiquaient ces derniers jours que l'affaire a été classée. Des organisations de la société civile saluent cette sortie du procureur. Elles demandent à la justice d'aller jusqu'au bout dans cette affaire. Juliette Koulibaly.
Toute personne impliquée dans l'affaire dite de l'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires sera traduite devant la justice. C'est du moins ce qu'affirme le procureur général de la Cour suprême. Pour Mamoudou Tembo, cette affaire est loin d'être classée car des poursuites sont engagées par des juridictions compétentes.
Tout ce qui concerne les autorités gouvernementales, les hautes autorités, les poursuites judiciaires sont déclenchées au soin du procureur général de la Cour suprême. Donc, un progrès de la République au niveau du pôle économique et financier ne peut ni classer sans suite, ni déclencher l'action publique.
Le bloc d'intervention populaire et pacifique pour la réunification du Mali, Biprem Fassoko, se réjouit de cette réouverture de l'enquête. Cette organisation de la société civile attend depuis plus de 2 ans que justice soit faite, selon son vice-président Boubacar Sidiki Diarra.
Avec cette déclaration du procureur général, nous, on est satisfaits. Ce n'est pas une question de personne, c'est une question de vision, c'est une question du Mali. Donc vraiment, nous sommes satisfaits. Nous encourageons le procureur général à aller dans ce sens-là. Parce qu'on ne peut pas dilapider les biens de l'État et dire que ben voilà, le dossier est classé. C'est trop facile.
Cette sortie du procureur intervient quelques jours après celle de Soumeilou Boubey Maïga, ministre de la Défense au moment des faits. Celui-ci a déclaré sur un plateau de télé que l'affaire était classée sans suite. Rappelons qu'en 2014, le vérificateur général avait relevé la disparition de plus de 153 milliards de francs CFA et la dilapidation de plus de 28 milliards dans l'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires.
Et dans le cas de cette affaire, plusieurs sources indiquent que l'ancien premier ministre Soumeilou Boubey Maïga devrait répondre ce jeudi matin à une convocation de la section judiciaire de la Cour suprême. Il faut rappeler que Soumeilou Boubey Maïga était ministre de la Défense au moment des faits. Vous pouvez réagir à toutes ces informations sur nos réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Une dizaine de détenus se sont évadés lundi dernier de la maison d'arrêt de Barouéli dans la région de Ségou. Selon les autorités locales, des poursuites ont été lancées pour retrouver tous les évadés. Elles précisent que la prison accueille une trentaine de prisonnières. Écoutons le témoignage de cette autorité judiciaire qui a requis l'anonymat. Elle est jointe par Mohamed Ali Ag Aleida.
Journée du lundi 23 août, entre midi et 13h, il y a eu un cas d'évasion. Au cours de quel cas, il y a 10 détenus qui se sont évadés. Pour le moment, les enquêtes sont en cours pour essayer de déterminer les conditions dans lesquelles ils se sont retrouvés dehors. En partant, ils ont caillassé à peu près le garde qui était sur place, qui a été légèrement blessé ainsi qu'un autre garde. Il y a 2 détenus qui ont tenté de les retenir, qui ont été également légèrement blessés. Et les 10 évadés, quand même, ont pu tous disparaître dans la nature. Donc, pour le moment, on ne sait pas dire exactement ce qui s'est passé parce qu'on est en train de recouper les informations partout par là. La jeunesse de la localité, la population, tout le monde est en train de d'œuvrer quand même pour qu'on puisse éventuellement les appréhender.
Je le disais dans le titre, renforcer le dialogue inter- et intra-religieux pour la stabilité et la paix au Mali. La question est au centre d'un cadre de concertation qui a débuté hier mercredi à Bamako. La rencontre de deux jours réunit des associations et confessions religieuses. Elle est une initiative du ministère des Affaires religieuses, du culte et... Mais le reportage de Maman Baba Kunta.
Pour avoir la paix et la stabilité, le religieux a un rôle important à jouer. C'est du moins ce qu'affirme Tcherno Hadikam du Haut Conseil islamique du Mali. Il estime que cette rencontre sera une occasion de traiter tous les dossiers, notamment les conflits intercommunautaires ou religieux.
Ce qui se passe au Mali aujourd'hui, est-ce qu'au fond il y a un problème religieux là-dedans ou pas? Et ce qui se passe au nord et qui veulent appliquer la charia, qu'est-ce que les religieux eux-mêmes pensent de cette situation? En échangeant, Inch'Allah, nous allons avoir la paix.
Pour le cardinal Jean Zerbo, permettre aux croyants de s'asseoir et réfléchir ensemble est une initiative qui renforce la cohésion sociale et le vivre ensemble.
Dans toutes les religions, ce qu'on demande aux croyants, c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Personne ne peut dire prétendre aimer Dieu s'il n'aime pas son prochain. Et personne ne peut prétendre aussi aimer son prochain s'il ne le fait pas à l'image de l'amour de Dieu. Puissent ces assises donc nous aider à aller dans cette direction.
Des groupements d'églises et missions protestantes évangéliques du Mali participent également à cette rencontre. Son délégué général, le docteur Nuh Yattara, souhaite que chaque Malien puisse vivre en paix dans le respect de la religion de l'autre.
Maman Baba Kunta, à Kolokani, dans la région de Kolikoro, beaucoup d'habitants souhaitent la prolongation de la durée de la transition au Mali. Ils reconnaissent que le bilan n'est pas reluisant, mais disent fonder de l'espoir sur les autorités de transition. Du côté de la société civile, on pense que c'est sans importance, mais elle demande plutôt plus d'action, de développement dans le cercle de Kolokani. Notre envoyé spécial, Moussa Malé Sissoko.
Les habitants estiment que le Mali est sur une bonne lancée avec les nouvelles autorités de transition. Ils indiquent qu'il faudrait leur donner plus de temps pour mieux travailler au bonheur des Maliens.
Avec cette transition, le Mali se porte mieux qu'auparavant. Les autorités ont besoin du temps pour améliorer la gestion du pays.
Après la chute d'Ibeka, beaucoup de choses ont changé. Notamment la sécurité s'est améliorée. Je demande aux autorités d'œuvrer pour la relance de l'économie.
La transition devrait prioriser l'emploi des jeunes.
La durée de la période transitoire nous importe peu, expliquent certains acteurs de la société civile de la cité de Belédougou. Pour eux, les autorités devront s'atteler au renforcement de la sécurité et au développement du cercle de Kolokani. Omar Traoré, président de la société civile de Kolokani.
Benika. Chacun a ses attentes au Mali. Présentement, les populations de notre cercle n'aspirent qu'à la sécurité et au désenclavement. Il est difficile de rallier deux villages faute de routes.
Situé à plus d'une centaine de kilomètres de Bamako, Kolokani est une collectivité territoriale de la région de Kulikoro. Il compte aujourd'hui 10 communes. De Belédougou, Moussa Malé Sissoko pour Studio Tamani.
Et une marche de soutien à la transition est annoncée ce matin à Nioro, ville du guide spirituel Bouye Haïdara. À l'initiative du shérif de Nioro, la manifestation vise à demander la prolongation de la transition, affirment les organisateurs. Faciliter l'accès à la terre, à la propriété, au logement des déplacés. Tel était l'objectif d'un atelier organisé par le Conseil norvégien pour les réfugiés ce mardi à l'hôtel de l'Amitié. Alors que la question du foncier suscite très souvent des tensions au Mali, les organisateurs espèrent que cet atelier permettra aux Maliens de comprendre la loi qui régit ce domaine. Les acteurs venus des différentes régions ont pris part à cette rencontre. Le compte-rendu de Kwandjara.
Au Mali, la gestion du domaine foncier est marquée par une conflictualité fréquente du fait de la multiplication des acteurs, a expliqué Emma Yao, juriste au Conseil norvégien pour les réfugiés.
Aujourd'hui, la question de la gouvernance foncière avec les réformes foncières en cours reste assez problématique et surtout une meilleure assistance pour les bénéficiaires. Et aujourd'hui, organiser un atelier de ce genre permettra de réunir à la fois non seulement les acteurs qui interviennent sur les questions humanitaires, mais également les acteurs du développement et aussi les responsables techniques de l'État en charge des questions question foncière au Mali.
Pour Ibrahim, animateur à la Chambre d'agriculture à Mopti, cette rencontre doit permettre de mettre en relief toutes les questions liées au foncier rural.
La situation sécuritaire vraiment a fait en sorte qu'au niveau de la région, il y a trop de difficultés sur le foncier. Même avant la situation sécuritaire, il y avait en tout cas la loi sur le foncier agricole n'avait pas été très bien diffusée. Avec cet atelier, nous pourrons quand même avoir une synergie d'action.
Afin de réduire la fraude dans les domaines fonciers, les autorités annoncent que le titre foncier sera bientôt le seul et l'unique papier valable pour détenir une parcelle de terrain.
Faisons à présent l'évolution, le point de l'évolution de la maladie à coronavirus. 17 nouveaux cas de COVID-19, 5 patients guéris et un décès ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures. Ainsi, depuis le début de la pandémie, le pays a enregistré 14 795 cas positifs, 14 065 guéris et 537 décès. Place à présent à la rubrique Actes COVID présentée ce matin par Khalifa Goïta.
Chers auditeurs, bonjour et soyez les bienvenus. Pour ce numéro, nous vous proposons une série de questions posées par des Maliens. Ces questions sont répondues par des spécialistes de la santé sur la COVID-19.
Allô docteur, quel risque encourt une personne qui ne se protège pas lors des grands rassemblements?
Je vais rencontrer un malade. Dans une foule, vous augmentez ce risque. Si on est dans un environnement ouvert, tout ce que nous rejetons va être dissipé rapidement dans l'air. Mais plus il y a le confinement, les salles sont fermées, alors vous augmentez le risque avec le monde.
Les mégots peut-il être un facteur de contamination?
Pour le moment, on n'a pas beaucoup de recul là-dessus. Mais le fait que la personne qui a utilisé cette cigarette-là est infectée par le coronavirus, si jamais il éternue, ou bien il utilise ses mains pour prendre les mégots et que toi, à la fin, tu puisses utiliser ces mêmes mégots-là, après, tu te nettoies les mains. Donc, si il se trouve que le virus est sur ce mégot de cigarette, tu peux le prendre et te transmettre avec la personne infectée.
Bonjour docteur, une personne qui a déjà reçu le vaccin contre la maladie à coronavirus peut-elle contracter de nouveau cette maladie?
On peut faire COVID-19 après le vaccin, ça a été décrit ça et là. Et donc les vaccins induisent en tout cas un certain nombre d'immunité. Par exemple, il y a certains vaccins qui sont à 95%, il y a certains vaccins qui sont à 75%, tout est connu. Quel est l'avantage de la vaccination? C'est que non seulement ça permet bien entendu de ne pas attraper la maladie dans un certain nombre de mesures. Deuxièmement, si et seulement si le cas que vous venez de dire qui est rare et exceptionnel, mais si cela arrivait, c'est la forme simple, très simple en tout cas, qui est là, pas de complications en tant que telle.
Est-ce qu'une personne déjà vaccinée a besoin de faire fréquemment des tests PCR?
Quand on est vacciné, on n'est pas protégé contre l'infection, mais on est plutôt protégé contre une forme grave de cette infection à coronavirus. Cela veut dire que si vous êtes vacciné, vous pouvez contracter le virus, l'incuber sans évoluer vers la forme grave et contaminer même quelqu'un sans que vous ne présentiez aucun signe. Cela est bien possible, d'où la nécessité de faire le dépistage. Si ces personnes, même vaccinées, doivent voyager, on doit se rassurer qu'ils ne sont pas porteurs de virus dans leur sphère oropharyngée.
Ainsi prend fin ce bulletin d'information sur le coronavirus.
Studio Tamani.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
Actualité à l'intérieur du pays, la montée des eaux au niveau de Séméné à 65 km de Banamba rend la circulation difficile sur l'axe Banamba-Nyono. Les fortes précipitations ont fait déborder la rivière du Cercle. La seule alternative pour éviter les embourbements reste de passer par Ségou puis Bamako et regagner la foire hebdomadaire de Banamba. Cette alternative représente un grand tour de presque 500 km. Les populations du Cercle interpelle les autorités à prendre des dispositions pour la réhabilitation de la route. Et c'est ce qui met fin à ce journal qui vous a été présenté par Sekou Gadjigo, mise en onde Nuhum Djire. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, Aïssata Djera sera là pour la version Bamarankan de cette édition. Vous pouvez réécouter ces informations sur notre site web studiotamani.org ou en appelant au 37 321. Le programme alimentaire mondial vole au secours de certaines catégories de ménages dans les zones du centre et du nord du pays. Cette initiative vise à apporter un soutien alimentaire aux personnes vulnérables durant les 4 mois de la période de soudure, soit de juillet à octobre 2021. L'initiative concerne les personnes déplacées internes, les personnes résidentes vulnérables, les femmes enceintes ou allaitantes et les enfants de moins de 2 ans. Écoutons El Mehdi Ndiaye, chargé de programme préparation réponse aux urgences au sein du programme alimentaire mondial PAM.
Au niveau du cadre harmonisé, c'est-à-dire le gouvernement a pu identifier environ 1,3 million de personnes qui ont besoin d'une assistance d'urgence. Et le PAM, en appui au gouvernement, compte cibler environ 600 000 personnes, dont 416 000 personnes vulnérables à la soudure. Et à côté de cela, le PAM va couvrir aussi 184 000 personnes déplacées dans les régions de Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et Menaka. Et il y aura aussi une composante nutrition pour accompagner ces efforts d'assistance alimentaire.
Quels sont les bénéficiaires de cette intervention?
La première activité, qui est une assistance alimentaire d'urgence, cible deux types de bénéficiaires. Le premier type, ce sont les personnes résidentes vulnérables à la soudure. Et ensuite, le deuxième type, ce sont les personnes déplacées. Et ensuite, la composante nutrition cible des individus, les femmes enceintes ou mères allaitantes et les enfants de moins de 2 ans qui sont à risque de malnutrition.
Quels sont les critères de ciblage ainsi que les bénéficiaires de cette assistance?
En mars 2021, nous avons eu une grande session qui a abouti à cibler les cercles qui sont en phase crise ou pire, c'est-à-dire en phase 3 à 4. Et ensuite, nous avons des partenaires coopérants dans ces zones d'intervention qui nous appuient à identifier les villages qui sont encore les plus vulnérables dans ces communes qui ont été ciblées. Et cela se passe en étroite collaboration avec les communautés elles-mêmes. Le plus important de ce processus de ciblage est clôturé par une appropriation par les communautés elles-mêmes. C'est-à-dire, ce sont les communautés elles-mêmes qui ciblent les personnes les plus vulnérables. Et nos partenaires coopérants procèdent aux distributions sur la base de ces listes qui ont été proposées, discutées et validées par les communautés elles-mêmes.
Quelles sont les modalités d'assistance?
Les 2 premiers mois, le PAM compte fournir une assistance sous forme de bons alimentaires ou, si vous voulez, des coupons contre des denrées. Donc ça, c'est les mois de juillet et août. Ensuite, il y a les 2 mois suivants, septembre et octobre, le PAM compte couvrir les besoins à travers une modalité mixte, c'est-à-dire une partie en coupons et une partie en vivres. Et ces coupons respectent la préférence et les choix des bénéficiaires dans nos zones d'intervention. La valeur des coupons varie de 18 000 francs CFA à 25 500 francs CFA pour les ménages vulnérables à la soudure. Et ensuite, c'est déplacé sur base de leur vulnérabilité et sur base également des prix du marché, reçoivent des coupons dont les valeurs varient de 18 000 francs CFA à 51 000 francs CFA. À cela s'ajoute une composante nutrition qui cible les femmes. Et ces femmes, pour l'instant, à cause de certaines contraintes de ressources, ne vont être assistées que dans la région de Tombouctou.